Bonjour et bienvenue dans ce bulletin Azur épisode 5. Je suis avec Pierre Cousy.
Eh ben, bienvenue à tous et on va faire un petit tour, comme d'habitude, avec des actualités plus amusantes que d'habitude, au moins pour l'une d'entre elles.
Voilà.
On en fera tout à l'heure.
Et nous sommes également sans Thomas aujourd'hui, qui nous rejoindra dans le prochain épisode sans doute. Nous nous appuyons aujourd'hui sur les épisodes de 68, 69 et 70 du Cloud Cover Show, ainsi que de plein de nouvelles locales également et d'autres nouvelles en dehors de Cloud Cover Show.
Ouais, donc alors le 70 c'est pas passionnant, c'était le grand départ de Steve Marks qui va
Ouais.
monter une petite société à côté. Et donc vous verrez ces 30 minutes d'adieu avec quelques
Il y
démos.
a quand même un ensemble de démos qu'il a faites
Il
qui
y a
sont pas
quelques
mal.
démos qui sont très
Bon, voilà.
sympas. Par contre, les deux épisodes précédents sont passionnants,
Ouais.
très orientés data et vraiment très bien faits.
Mais on va y revenir tout à l'heure dans les actualités. Donc, première actualité, pourquoi ces camions de pompiers?
Alors, donc on tourne ça le 1er mars, et pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu hier un downtime important de la plateforme.
Oui.
Donc on voulait revenir un petit peu dessus et expliquer comment est-ce qu'on réagit dans ces cas-là et comment est-ce que vous devez réagir. Donc le premier point d'entrée que vous devez connaître, c'est le dashboard de service. Je ne sais pas si tu l'as.
Voilà, alors donc en fait, pour aller à ce dashboard de service, une des façons d'y aller, c'est d'aller sur windowsazure.com, donc ce portail-là. Ensuite, on va dans support, et dans support, on a service dashboard, donc où on obtient ce tableau de bord avec tout un tas de flux RSS qui nous permettent de suivre les différents éléments. Donc là, par exemple, on voit qu'on n'est pas encore complètement remis, puisque dans South Central US, on est encore orange. Si on va dans le détail sur ce qui s'est passé sur North Europe, qui est un peu plus proche de nous, on voit qu'on a été tenu au courant au fur et à mesure de ce qui s'est passé avec à chaque fois des blocs, enfin des nouvelles entrées dans le flux RSS qui reprennent les anciennes. Donc la première à 10h55 GMT, c'est-à-dire à midi moins 5 hier pour la partie compute. Et puis ensuite, on a été tenu au courant assez régulièrement avec justement ce qui se passait, où ça en était, qu'est-ce qui était fait, etc.
Oui, donc ça c'est bien parce que ça vous permet de savoir en temps réel que les choses avancent. C'est pas très précis, il n'y a pas d'explication réelle de ce qui s'est passé parce qu'elle n'est pas encore connue. On commence par
Voilà,
réparer et on fera les explications a posteriori. Mais au moins vous voyez les dates par exemple ici, hein, toutes les heures ou toutes les heures et demie, il y a un update pour vous dire où on en est. Et même si on n'a rien fait de neuf, on vous dit on n'a rien fait de neuf, mais on est encore là.
par exemple, voilà, les efforts sont toujours en cours, des choses comme
Voilà.
ça.
Alors deux actions complémentaires à connaître. Une, pendant que vous avez ce type de souci, si ça revient, il faut que vous ayez quelque part sous la main votre subscription ID, donc l'identifiant de l'abonnement, et éventuellement pour les déploiements les plus critiques, l'identifiant du déploiement, parce que le support Azure peut faire quelque chose à partir de ça. Et le deuxième qu'on va voir maintenant, c'est que dès qu'on peut, on vous donne un premier post-mortem de ce qui s'est passé.
Voilà, donc là c'est un blog post qui date de ce matin, dans lequel il est expliqué que visiblement il y a eu un bug logiciel, qu'à partir de là on a arrêté certains services pour pas qu'il y ait des problèmes qui se répandent,
Et que ça n'a pas marché.
et qu'ensuite il y a eu un hotfix qui a été conçu, créé, testé et qui a été ensuite déployé dans les différents data centers. Donc vous pouvez regarder ce blog post qui est un premier post-mortem. Il y en aura peut-être d'autres par la suite.
Voilà, donc ça c'était l'actu la plus brûlante et de loin.
Voilà, et donc bah, on est désolé pour ce qui a pu se passer, les effets que cela a pu avoir.
Eh bien, retour à nos actus.
Retour à nos actus. Donc les nouvelles locales. Les Tech Days. Donc les Tech Days ont eu lieu première semaine de février à peu
Ouais.
près. Et donc les enregistrements sont pas encore disponibles sur le site mstechdays.fr, sauf les lives des 3 jours. Et donc en termes de Windows Azure, en fait, on a la plénière du jour 1 et la plénière du jour 2 qui parlent un peu de Windows Azure.
Et oui, et puis il y a trois sessions surtout.
Et surtout, il y a 3 sessions. Donc une sur développement mobile et Azure, avec un back-end Azure en fait. Une sur Azure pour les développements. Et une sur les nouveautés SQL Azure qui se retrouvent dans les lives donc des jours 1 et jour 2. Donc si vous suivez cette vidéo-là, vous devez pouvoir retrouver ces sessions-là pour l'instant, en attendant les autres qui seront disponibles sur mstechdays.fr.
Ouais, donc ça c'était pour la partie événement.
Voilà.
Ensuite, on a beaucoup de petites nouvelles. Donc,
Voilà,
je vais te
donc.
laisser commencer sur les parties meetings et
Voilà, donc
puis.
sur la partie, donc ces nouvelles-là, elles sont extraites de blogsmsdn.com/windows-azure-france. Pour enlever le B, hein, il se remettra tout seul. Dedans, vous trouverez entre autres un blog post sur les live meetings qui ont lieu en ce moment sur Windows Azure. Donc le prochain a lieu demain, donc je pense que le temps que la vidéo soit
Oui, a
disponible,
eu lieu il y a une semaine,
il a eu
pardon.
lieu vendredi 2. Et puis il y en a un autre le 15 sur développement mobile également. Et puis on en fera d'autres, donc vous pouvez les regarder, vous pouvez regarder les dates, et elles sont dans ce blog. On a également l'intégration dans WebMatrix de la publication vers Windows Azure. Qu'est-ce
Alors, c'est l'intégration à WebMatrix de deux choses. Un système qui vous permet de déployer automatiquement sur Azure un rôle qui s'appelle Windows Accelerator, mais enfin, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, et qui permet ensuite d'héberger des sites web. Donc, il y a d'abord un assistant qui vous guide pas à pas pour déployer ce squelette dans Azure, et cet assistant se lance depuis WebMatrix. Et ensuite, on a une interface d'administration dans WebMatrix, aussi bien pour la partie SQL Azure que pour la partie Windows Azure.
On peut rappeler en 2 secondes ce que c'est que WebMatrix?
WebMatrix, c'est le petit outil gratuit de développement web
Oui.
qui a été mis à disposition depuis 2 ans et qui est multitechno, donc qui fait de l'ASP.NET et du PHP principalement, mais il fait aussi un petit peu de Ruby maintenant. Enfin, d'autres langages sont en train d'apparaître.
D'accord. Très bien. On a également un livre blanc complet en français sur le développement, enfin conception, développement d'une application Windows Azure, donc qui a été écrit par un de nos partenaires et qui contient tout un tas de chapitres. C'est assez complet. Ça part d'un scénario fictif avec pas mal de points qui sont abordés. Donc ça vaut le coup de le lire.
Je pense qu'on peut citer le partenaire, sinon vous aurez beaucoup de mal à trouver.
Oui,
Mais c'est
c'est
Sogetti.
Sogetive, exactement. Oui, tout à fait. Cela dit, pour le trouver, le livre blanc, il est disponible sur Visual Studio. Je pense, et puis également, on doit retrouver les coordonnées depuis le blog de Windows Azure France, encore une fois. Un scénario de partage de données avec SQL Azure. Donc là, l'idée, c'est de dire, vous pouvez très bien avoir 2 entreprises qui se partagent des données. Donc, ce qui se fait classiquement, c'est par exemple une entreprise A envoie par FTP des fichiers à l'entreprise B qui les intègre dans son propre système d'information. Et là, le scénario, c'est de dire, bah, éventuellement, plutôt que de s'échanger des fichiers, elles peuvent chacune alimenter et aller chercher, ou alimenter toutes les deux éventuellement, une base SQL Azure qui, elle, est dans les nuages et qui est au milieu et sur laquelle on peut même créer du reporting, et donc à partir de là, on peut avoir même une vue sur le tuyau lui-même, quoi. Donc c'est une façon de faire de l'EAI entre entreprises en B2B d'une façon relativement simple, où chaque entreprise utilise son ETL pour aller pousser ou retirer des données dans une base qui, elle, est en no man's land, à savoir sur Internet. Le rétraceur?
Alors le retraceur, donc c'est un concours qui a déjà été lancé une première fois et comme ça a beaucoup plu et qu'on a vu de très jolies réalisations faites avec, on recommence.
Voilà.
Donc ça vous permet d'utiliser un retraceur directement sur Azure et d'utiliser les ressources là-haut pour faire les différents calculs. Et il y a du coup des concours assez réguliers sur ce thème-là vu qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui savent faire de la modélisation 3D. Donc on peut comme ça eh ben faire de jolies images et des scènes assez intéressantes. Donc rendez-vous sur retraceurcontest.cloudapp.com pour le prochain concours qui doit commencer là dans les
Là,
jours qui viennent.
aujourd'hui, je pense, à peu près. L'application Azure du mois, donc ça, c'est une mise en avant des applications qui tournent sur Azure en France. Et donc, chaque mois, on va mettre en avant une application plutôt qu'une autre, etc.
Ouais, enfin, donc c'est Julien qui fait ça, donc c'est toujours 3-4 applications chaque mois, hein, parce qu'il adore montrer plein de
C'est
choses.
toujours Monsieur Plus.
Voilà.
Donc voilà. Et donc on peut voir effectivement, je ne suis pas sûr que ce soit Julien d'ailleurs, mais on doit pouvoir voir différentes applications. Voilà. Entre autres, il y a une galerie d'art en ce moment, je crois. Azure for Dev, on va y revenir, mais en gros, c'est pour des développeurs leur fournir quelques outils sur Azure. Et
Ouais, donc
donc, on va
si
voir dans le
vous êtes
détail.
abonné à MSDN, jetez un œil à la fin de ce webcast, il y a des
Ouais.
choses qui vont vraiment vous intéresser.
Exactement. LBA, ça veut dire le bulletin Azure. Ah bah tiens, on est dedans. Témoignages, donc il y a plusieurs témoignages qui ont lieu ou qui vont avoir lieu. Regardez aussi ces épisodes en parallèle qui contiennent des informations complémentaires. En général, c'est sur un sujet, sur un projet en particulier. Donc voilà, et le prochain devrait être avec la communauté The Cloud.
Oui, dans 3 semaines à peu près.
Oh, même avant, je crois. Voilà. Et puis également, toujours dans les nouvelles locales, une nouvelle adresse, AKMS, donc ça change pas beaucoup, AKMS, slash Azure Hub, qui permet d'avoir une vue sur tout un tas de réseaux sociaux dans lesquels il est question de Windows Azure en français la plupart du temps. Donc on a du Facebook, Twitter, blog, YouTube, LinkedIn et SlideShare. Voilà, on va passer aux actus de Windows Azure. Hop, je l'avais.
Alors,
C'est
on
bon.
y est.
Voilà. Donc, première actu, je te laisse la parole.
Eh bien, on va commencer par celle-là qui est très intéressante. Depuis le 1er janvier, les offres d'essai gratuites, les offres MSDN, toutes les offres en gros d'essai ou de consommation Azure sont des offres capées. Donc, si on peut zoomer un petit peu, voilà, pour que vous puissiez lire ça en détail.
On avait révisé avant, hein.
On a travaillé pour ces enchaînements. Très concrètement, vous allez mettre un numéro de carte bleue lorsque vous prenez une de ces offres parce qu'on a besoin d'éviter la fraude. Mais cette carte bleue n'est jamais débitée parce que dès que vous dépassez le seuil fatidique de 0 euros, eh ben, au lieu de vous facturer, on débranche le site jusqu'à la fin de la période de facturation. Donc en général, jusqu'à la fin du mois et on repart au bout pour le mois prochain avec à nouveau les
Quand
ressources.
on a des nouvelles ressources gratuites pour vous.
Voilà, donc depuis le 1er janvier, pour toutes les offres d'essai gratuites, et ça s'applique aussi à tous les abonnements MSDN activés depuis le 1er janvier, attention, si c'est ancien et que vous dépassez, ben vous allez être facturé.
Voilà. Cloud Cover Show. Donc, comme on le disait, en fait, nos épisodes préférés sont plutôt les 68 et 69. Si tu veux parler du 68, je parlerai du 69.
Oh, ben le 68, on a donc
Un
un
gars avec une
débrief.
pendule.
Oui, oui, qui était l'invité et qui faisait aussi le timekeeper. Et donc, qui donne une explication détaillée de ce qui peut se passer sur SQL Azure. Et donc, qui vous donne notamment la technique pour déchiffrer les codes un petit peu byzantins qui expliquent que ça n'a pas marché.
Et pourquoi?
Et qui vous dit à coup de comment passer calque en mode hexadécimal pour découvrir les valeurs importantes et donc trouver les bonnes références derrière. C'est pas inintéressant, c'est nécessaire si vous avez des applications SQL Azure qui commencent à vous envoyer des messages d'erreur bizarroïdes, parce que ça permet de savoir exactement dans quel mode on est et pourquoi on a été bloqué par la plateforme.
C'est nécessaire également si vous avez envie de développer un outil pour Windows Azure, parce que il y a de quoi développer un outil de décodage des
Ah
codes
oui.
d'erreur d'SQL Azure, à la limite.
Pour l'instant, c'est soit la doc, soit un type avec une pendule sur le ventre.
Hein. Très bien. Et l'épisode 69, en fait, est avec George Huey, qui est le papa, en fait, de SQL Azure Migration Wizard, qui est un outil que nous
Tout le monde
adorons tous les
utilise.
deux, et qui permet de faire passer une base SQL Server vers une base SQL Azure en disant voilà ce qui marche pas, voilà ce qu'il faut modifier, etc., etc. Et entre autres, il y a une version de cet outil qui existe également pour Azure Fédération, donc pour des bases shardées. Et donc, il parle de ça avec Wei Wagner. Donc voilà sur ces épisodes. Ensuite, est-ce que l'Azure est moins cher?
Alors, donc on reparle d'argent. Donc les offres d'essai sont gratuites,
Voilà.
vraiment gratuites, et le tarif de SQL Azure s'écroule. Donc ça commence à 50% de réduction malheureux lié simplement au fait que entre 0 et 100 mégas, les petites bases sont facturées 5 dollars au lieu de 10. Donc vous
Voilà.
ferez la traduction en euros en réactualisant tous les mois sur les tarifs, comme
Voilà.
d'habitude. Et ensuite, on a adopté une échelle linéaire pour l'intégralité des tarifs. Donc on n'a plus d'effet de seuil lorsqu'on passe d'un niveau à un autre. C'est complètement lissé. Et vous voyez que ça se traduit au final par une baisse non négligeable du coût d'utilisation de SQL Azure.
Voilà, donc pour la baisse la plus spectaculaire, parce qu'on avait déjà la baisse pour les 150 gigas, mais la baisse pour 5 gigas, en fait, pour 100 mégas, pardon, c'est le fait que si, par exemple, on a une base qui est taillée pour 1 giga, mais qu'elle ne contient que 50 mégas, par exemple, du coup, on sera facturé que 100 mégas, et donc elle coûte 5 dollars par mois, à peu près.
C'est ça.
Voilà, donc ça fait une base pour pas cher. Ensuite, un blog post de Sihan Bilyekoglu qui écrit assez souvent pour qu'on arrive à prononcer son nom, et donc qui a écrit un blog post pour expliquer comment est-ce que on pouvait accéder aux bases fédérées avec Entity Framework. Donc on vous laissera le lire. Autre point intéressant par rapport aux bases de données SQL Azure, il existe AdventureWorks pour SQL Server depuis un certain temps. Et donc là, il y a une version qui a été faite pour SQL Azure, donc ça c'est intéressant déjà. Et il y a aussi dans cette base exemple, une version pour SQL Azure Fédération, donc avec effectivement la base shardée sur, alors je ne sais plus sur quelle ID c'est fait, mais effectivement on a cette deuxième base exemple. Import-export.
Oui, alors pour moi c'était une grosse surprise cette nouveauté parce que je pensais que ce truc-là était disponible depuis déjà un moment et il l'était, mais il n'était pas encore en version finale et officiellement en production.
Voilà.
Donc c'est le cas. Donc ça marche exactement comme avant.
Oui.
Il y a zéro difficulté, ça tombe en marche.
Dans le portail, il n'y a plus marqué preview.
Voilà.
Ou bêta, ou je sais plus, c'est marqué que c'est rien marqué maintenant. Business Continuity in SQL Azure. Donc ça, justement, le fait que ça, c'est un article qui fait partie de la documentation MSDN et qui explique comment assurer une haute disponibilité de SQL Azure donc dans le nuage. Et entre autres, ça s'appuie sur cette notion, sur cette fonctionnalité de import-export. Alors, je vais plutôt le mettre comme ça, histoire qu'on voit à peu près. Puisque effectivement, on va pouvoir avoir des backpacks, pardon, c'est ici. Donc je vais avoir ma base SQL Azure que je vais pouvoir copier et ensuite je vais pouvoir exporter. Donc ça, cette première copie, elle sert entre autres à avoir une intégrité référentielle. Et puis ensuite, je vais pouvoir exporter ça dans des backpacks. Ces backpacks sont eux-mêmes répliqués puisqu'ils sont sur des blobs dans l'autre data center de la même région. Donc voilà, après, ça c'est pour rentrer un peu au cœur de l'article, mais il explique tout ça avec plein de avant et après le schéma. Un blog post sur des bonnes pratiques dans les blobs, on reste dans le stockage.
Oui, donc ça, c'est des choses qui sont assez simples aux premières vues. Quand on le découvre et qu'on utilise ses propres API pour poser et relire, on n'a aucun souci. Et puis, lorsqu'on veut mettre à disposition les différents fichiers depuis un navigateur, depuis une appli qu'on n'a pas écrite, etc., on se heurte à plein de petites bêtises qu'on a oubliées. Et donc, ici, on a typiquement la plupart des astuces là-dessus. Donc, moi, celui que je vous recommande le plus, c'est si vous avez besoin d'éjecter rapidement du contenu d'une de vos machines Windows Azure, le upload sur les blobs peut avoir des performances multipliées par 5 si on le fait sur du multithread en parallèle. Donc c'est vraiment la grande leçon que j'en ai retirée, mais il y a plein d'autres petites choses à regarder là-dedans.
Donc le numéro 3 est ton favori.
Oui.
Très bien. On reviendra sur ce point-là, mais en fait, j'ai commencé à écrire quelques blog posts sur la mise à disposition de Hadoop, donc l'open source, enfin le projet open source Apache qui permet d'implémenter du MapReduce sur Windows Azure, donc qui est disponible en CTP privé pour l'instant, et qui permet de faire du big data sur Azure avec entre autres par exemple, si on veut, l'analyse de log IIS de
Oui.
cette façon-là.
Oui, alors comme le portail avait une tête métro, j'imagine qu'on attendait la sortie de la bêta de Windows 8 pour le montrer. Donc avec un petit peu de chance,
Voilà.
ça sera dans les semaines qui viennent que vous pourrez jouer avec sans passer par les invitations privées.
Voilà, le toolkit for Social Games version 1.2.2 est sorti, donc il est mis à jour assez régulièrement et c'est encore le cas. Un article sur la comparaison entre les Windows Azure Queues et les queues dans Windows Azure Service Bus. Donc c'est assez intéressant de voir effectivement quand est-ce qu'on peut utiliser l'un ou l'autre. Donc si on se pose la question sur est-ce que je prends A ou B? Ça vaut le coup de lire cet article avant. Autre point toujours dans Windows Azure Service Bus, on a une CTP qui maintenant n'est plus privée mais est disponible dans portalappfabriclabs.com et qui permet de faire de l'Azure Service Bus EAI et EDI.
Oui.
Donc en gros, c'est un peu des concepts qu'on avait dans Bistock Server, qu'on a toujours dans Bistock Server d'ailleurs, qui existent également maintenant dans Azure, donc développés assez différemment, mais on retrouve des concepts. On a par exemple un mapper ou des choses comme ça.
Avec des chemins de compatibilité qui
Oui.
sont en train de converger très rapidement. Donc ça vaut le
Voilà.
coup de regarder ça, y compris si vous n'êtes pas Azure, mais plutôt Bistock,
Oui.
parce que vous aurez très très vite des nouveautés intéressantes et des annonces intéressantes sur l'intégration entre les deux.
Sans compter que si vous êtes un SS2I, il est possible que vos clients vous posent la question. Ensuite, SendGrid.
Ah, alors ça fait partie des choses que nous ne voulons pas sur Azure. Sur Azure, nous n'avons pas de serveur SMTP. On ne tient pas à devenir opérateur de mail pour des raisons diverses et variées. Donc il y a des gens dans ce métier qui font ça très bien. Il y en a en France. Il se trouve que là, ce sont des Américains. Donc SendGrid, qui est un des fournisseurs de mail assez connus aujourd'hui, a décidé d'étendre son offre gratuite initiale, qui est destinée à Monsieur Tout le Monde, pour faire une offre gratuite avec beaucoup plus de volume. Je crois que c'est 25 000 mails par mois,
C'est ça.
à disposition des abonnés Azure.
Voilà. Et donc, très bien. Autre fournisseur, Cloud9 IDE. Donc, Cloud9 IDE, c'est un IDE, donc un environnement de développement qui s'exécute dans le navigateur.
Oui.
Et ils ont autorisé la mise à jour, enfin ils ont rajouté dans les environnements d'exécution de Node.js Windows Azure. Donc en fait, on a une expérience complètement intégrée depuis le navigateur où on développe son serveur Node.js et ensuite on va aller le déployer directement dans Windows Azure. C'est un des cas où on peut déployer dans Windows Azure sans avoir du tout Windows.
Oui, et c'est la techno préférée de Scott Guthrie, juste après le monde .NET dans son intégralité. Donc c'est pas inintéressant à regarder.
Voilà, donc effectivement, il fait une démonstration de ça avec un Mac sur Safari. Et puis du smooth streaming.
Oui, alors on entend parler de ça depuis très longtemps.
Alors
Donc
ça, c'est un extrait de l'épisode 68 du Cloud Cover Show.
70,
70, pardon, 70,
c'est le
70.
nec plus ultra de l'épisode 70. Donc vous savez ou vous savez pas que lorsque vous uploadez une vidéo dans un blob et qu'ensuite vous greffez dessus le CDN, eh bien cette vidéo devient une vidéo utilisable en smooth streaming. Donc là par exemple, on va en lancer une au hasard. Et on va simplement se balader dans cette vidéo, donc on va n'importe où ailleurs. Voilà. Et ce que vous allez constater sur vos machines, c'est que le temps de transition comparé à une vidéo classique est extrêmement bref, parce qu'on n'a pas à faire des chunks de taille fixe sur des frontières connues de la vidéo. On peut directement passer sur un flux très bas à un endroit quasiment aléatoire. Et donc.
Est-ce que j'arrive à retourner sur le papillon du premier coup?
Oh, bah.
Ah, j'ai pas eu le papillon.
Voilà, c'est exactement la différence avec une vidéo classique. Et donc ça commence très lent.
Ah, pas mal! Je l'ai eu!
Voilà.
Attends,
Bon,
attends, si je vais complètement ailleurs.
on vous laisse creuser, sinon Benjamin va pas s'arrêter, donc on a d'autres choses à voir.
Ah, je l'ai encore raté.
D'accord.
D'accord.
Voilà, donc
Très
sachez
bien.
que, alors, c'est toujours pas en bêta public pour jouer avec ce smooth streaming sur le CDN, mais il y a de plus en plus de démos qui arrivent autour. Donc si vous êtes intéressé pour un besoin spécifique, n'hésitez pas à nous contacter. On saura avec qui vous mettre en relation.
Très bien. Donc j'arrête le papillon.
S'il te plaît.
Très bien. Il veut plus s'arrêter.
Non, c'est smooth streaming, une fois que c'est lancé.
Ah oui, une fois que
Voilà.
c'est lancé, ça s'arrête
Ça
plus.
ne s'arrête plus.
Très bien. Ensuite, Azure for Dev.
Ah, ben je vais vous montrer un petit peu ça. Donc je vais virer, je pense, Benjamin de son PC.
Hop.
Voilà. Donc il n'a pas réussi à tout péter. Alors, qu'est-ce que c'est Azure for Dev? Donc c'est quelque chose qui a été conçu spécifiquement pour les abonnés MSDN et c'est tout un ensemble de services pour vous aider à développer des petits sites autour d'Azure sans avoir à trop comprendre ce qu'est Azure dans un premier temps. Donc je vais peut-être vous montrer rapidement deux ou trois nouveautés là-dessus. Donc on va prendre iExplore. Et puis je vais prendre un site que j'ai déjà développé. Donc c'est encore un. Alors pourquoi c'est encore un? C'est parce qu'on est en train de finaliser tout ça.
Vous pouvez encore réserver anneplus.cloudapp.net, peut-être.
Voilà. Et donc qu'est-ce qu'il vous apporte ce site? Il vous apporte plusieurs choses. Il y a d'abord un endroit où vous pouvez gérer N sites supplémentaires. Donc sur encore1.cloudapp.net, je vais me loguer. Voilà. Pour les abonnés MSDN, vous verrez, c'est un petit exécutable que vous déclenchez sur votre poste et qui vous fait tout ça proprement et qui vous déploie tout en vous demandant juste en gros un login et un mot de passe. Et donc là, ce sont les sites qui sont à disposition sur ma machine Windows Azure. Je vais en ajouter un. Donc je note au passage que je suis sur les ports 80, 80, 81 et 82. On y va. On en fait juste un nouveau. On va l'appeler test, un truc très intelligent comme ça. Test.
Toto était déjà pris,
On va
peut-être.
prendre le 80, 83 par exemple ici, donc il sera accessible là-dessus. Notez que si j'avais un nom de domaine libre sous la main, je pourrais simplement changer le hostname que vous voyez là. J'ai pas besoin du CDN, je compte pas faire de vidéo dessus et je crée ça. Voilà, donc là normalement j'ai un truc qui
Waouh.
s'appelle test à ma disposition. Et alors Benjamin m'a
Donc,
dit avoir
instantané.
préparé un site web quelque part. Le
Voilà.
voilà, ce site web. Et donc ça c'est un site web qui n'a rien à voir avec Azure, hein. Il est simplement développé en MVC en l'occurrence. Et je vais utiliser ici le petit protocole de publication standard. Voilà. Donc c'est
WebDeploy.
sur encore1.cloudapp.net. Ça s'appelait test. On va dire que c'est une application IIS. On va lui dire de faire le ménage s'il trouve des choses. On va lui dire que c'est un certificat auto-généré. Et ensuite, un login et un mot de passe plus loin. Hop. Ton clavier est trop large par rapport à mon petit netbook. Du coup, je
D'accord.
loupe les touches. Je suis absolument désolé. Je ne vais pas faire safe password, hein, c'est ta machine.
Oui.
Et j'ai publié. Voilà, donc ici, vous voyez la publication qui se lance, c'est planqué tout petit, etc. Alors, donc désolé pour les petits incidents de réseau qu'on a sur cette machine-là, mais ça vous permet d'amener directement le site web en... Alors, la première publication, c'est de l'ordre d'une vingtaine de secondes, et ensuite, les mises à jour sont inférieures à 10 secondes. C'est ultra rapide, et vous avez tout l'environnement cloud qui est disponible, donc si vous voulez jouer avec Roll Environment, avec les points d'abonnement pour les on-start, les running, etc., etc., c'est très facile à faire. Ce truc-là est persistant, après les reboots, il reste. Vous pouvez les rendre en ferme si vous le voulez, il y a plein de choses derrière. Donc ça, c'est une des premières fonctionnalités qui sont à votre disposition. Il y a plein de petits goodies divers et variés. Donc si je retourne juste à l'accueil, notamment si vous voulez. Moi, c'est un truc qui m'exaspère sur Azure, c'est qu'à chaque
Je
fois, il me
suis d'accord
bascule en
avec
plein
toi.
écran.
Enfin, sauf que là, on est en 1024 par 768, donc
Il
ça peut être
n'empêche
phénoménal.
que. Voilà, donc ça vous permet d'accéder comme ça en RDP à la machine en 1024. Bon, vous avez déjà vu l'intérieur d'une
Ouais.
machine Azure, hein, c'est pas passionnant là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Je vais prendre l'explorateur ici, je vais rajouter un network drive. Donc c'est toujours HTTP, j'ai oublié, encore un. .cloudapp.net/dav. Et on va pas se reconnecter systématiquement et on va utiliser mon compte et pas le tien. Voilà, donc je vais donner ici les différents droits et je vais me récupérer avec un petit partage de 10 gigas qui est accessible en HTTP pur. Donc ça veut dire que ça passe la plupart des firewalls et qui va permettre de se connecter comme ça très rapidement. Donc voilà un petit peu le périmètre autour de ça. Il y a encore d'autres éléments très intéressants. Il y en a un qui vient directement de nos bonnes équipes d'architecture côté Corp, qui s'appelle PortBridge, et qui permet de faire l'équivalent d'un tunnel, mais beaucoup plus spécifié que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas un tunnel aveugle. On lui dit spécifiquement ce qu'on veut faire ressurgir à l'extérieur. Et vous avez par exemple ici l'accès RDP sur localhost. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas vous connecter en RDP au monde extérieur, en utilisant cette fonctionnalité PortBridge, vous pourrez en fait tenter un RDP sur votre propre machine, et ça vous donnera la prise en contrôle de la machine distante. Donc voilà un petit peu toutes ces nouveautés. Ça sera disponible pour les abonnés MSDN à partir de à peu près le 7 mars en version finale. Et on l'aura sur CodePlex d'ici un mois à peu près pour les gens qui ne sont pas abonnés MSDN. Donc voilà un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer.
Très bien.
Je te rends le clavier.
Eh bien, c'est juste de toute façon pour dire. Hop là. Eh bien, c'est juste pour dire à peu près au revoir, puisque nous en arrivons à la fin de notre épisode. Donc le prochain à peu près dans un mois. Hein.
Oui, donc on
On
vous
n'a pas encore
retrouve
fixé la date.
a priori tout début avril pour le prochain bulletin Azure classique. Et entre-temps, vous aurez
The
un
Cloud.
invité, donc The Cloud en l'occurrence, qui viendra vous présenter ce qu'ils font.
Très bien. À bientôt, à la prochaine fois.
Merci à tous.